Les mystères du Palais Royal, deuxième partie, chapitre 10, la rue du Gindre. 9 heures du soir sonnaient à l'horloge de Saint-Sulpice. Un brouillard très épais s'étendait sur Paris, ne laissant distinguer les lanternes des carrosses et les falots des porteurs de chaises que comme des étoiles perdues dans la brume, égarant les piétons, faisant jurer les cochers, damnant les soldats du guet et favorisant les voleurs, qui, plutôt que de ne point tenter de bons coups à la faveur de ce manteau de vapeur sombre qui les rendait invisibles et insaisissables, se seraient dévalisés les uns les autres. Le brouillard semblait plus impénétrable et plus nauséabond que partout ailleurs, dans une abominable ruelle qui venait rejoindre, non loin de la place Saint-Sulpice, la rue du Vieux Colombier. Cette ruelle, étroite, fangeuse et longue, s'appelait alors, et s'appelle encore aujourd'hui, la rue du Gindre. Il y a 2 ou 3 ans, elle avait conservé dans toute son intégrité la physionomie de coupe-gorge qui la caractérisait à l'époque où se passent les faits dont nous sommes l'historien. Ces maisons, noires et crevassées, comme des centenaires décrépites, avaient tout l'aspect repoussant d'autant de repères et de mauvais lieux. De rares ouvertures, de petites lucarnes chassieuses, perçaient comme à regret leurs façades. Des portes étroites et basses semblaient se cacher près des pavés boueux, honteuses de donner accès dans ces demeures de sinistre apparence. En plein midi, la plupart des honnêtes gens aimaient mieux faire un long détour que de traverser la rue du Gindre. Une fois la nuit venue, elle n'était hantée que par ceux qui attiraient la pensée du crime ou les excitations de la plus ignoble débauche. Le soir dont il s'agit et à l'heure que nous avons indiquée un peu plus haut, plusieurs individus dont on ne pouvait distinguer les traits ni même la tournure s'engagèrent successivement dans l'horrible ruelle et frappèrent l'un après l'autre d'une façon particulière à une porte qui s'ouvrit pour les laisser passer et se referma derrière eux. Un observateur qui, dans un intérêt quelconque, se serait embusqué auprès de cette porte en aurait compté 8. Nous allons suivre le dernier de ces inconnus. Derrière la porte se trouvait une allée infecte, dont les dalles disparaissaient à demi sous une couche de boue gluante. Cette allée était plongée dans les plus profondes ténèbres. Quand on avait compté 40 pas à partir du seuil, on rencontrait la première marche d'un escalier de bois vermoulu, enchâssé dans une sorte de cage tournante et pourvu d'une corde grasse au lieu de rampe. 18 marches conduisaient au premier étage. Après en avoir franchi 18 autres, on arrivait au second. Là s'arrêta l'inconnu que nous suivons. Il s'orienta dans l'obscurité et frappa 3 coups à intervalles réguliers contre le panneau d'une porte qui s'ouvrit aussitôt comme un instant auparavant s'était ouverte celle de l'allée. Une nappe de lumière jaillit alors sur l'escalier et l'éclaira jusqu'à ce que la porte se fût refermée. La pièce dans laquelle venait de pénétrer l'inconnu était une antichambre de bonne apparence et illuminée avec un grand luxe. 5 ou 6 manteaux et autant de chapeaux étaient suspendus à des patères, fixés à la muraille exprès pour cet usage. Tandis qu'un laquais vêtu de brun débarrassait le nouveau venu de son chapeau et de son manteau, qu'il accrochait auprès des autres, on entendait à l'intérieur du logis un bruit joyeux de voix et de chansons, et un cliquetis de verres qui s'entrechoquaient et de fourchettes qui fonctionnaient activement. « Bourguignon, dit l'arrivant au laquais, il me paraît, mon garçon, que je suis en retard. »« Dame, monsieur le vicomte, un peu, répondit le valet d'un air de familiarité mélangé d'une faible dose de respect. « Sont-ils tous là-dedans ? » ?»« Oui, monsieur le vicomte. »« Mademoiselle aussi ? » ?»« Mademoiselle est arrivée la première. » L'inconnu ne poussa pas plus loin ses questions et il entra dans la pièce d'où s'échappaient les bruits que nous avons signalés. Cette pièce était tout à la fois un salon et une salle à manger. Des meubles somptueux en lampas orientales et en bois doré la garnissaient. Des tentures d'étoffe déguisaient la nudité primitive des murailles. Un véritable tapis des manufactures royales d'Aubusson recouvrait le sol carrelé. Au milieu de ce salon se dressait une grande table chargée de mets délicats servis dans de la vaisselle plate et de vins exquis contenus dans des flacons en cristal de bohème. L'argenterie était splendide. Seulement, on aurait pu s'étonner de ce que toutes les pièces de cette argenterie, aussi bien que la vaisselle plate, étaient de formes différentes et portaient des écussons divers et des initiales variées. Aucun des convives ne semblait remarquer cette particularité et y attacher la moindre importance. Ces convives étaient au nombre de 7, 6 hommes et une femme. Leurs costumes semblaient attester qu'ils appartenaient à des professions bien différentes et il eût été difficile de s'expliquer, dans le premier moment, quelles circonstances pouvaient les réunir ainsi. Le premier portait un uniforme de major au régiment de Royal Champagne. Le second était enveloppé dans une robe de moine et le capuchon rabattu de son froc laissait voir sa tête rasée, à l'exception, bien entendu, de la couronne monacale. Le troisième, qui cependant se trouvait sur un pied d'évidente égalité avec tous les autres, était vêtu d'une éclatante livrée vert et or. Le quatrième avait l'air d'un commissionnaire médaillé. Le cinquième semblait un honnête bourgeois de mine modeste et de discrète allure. Le sixième, celui qui venait d'entrer, paraissait un gentilhomme fort infatué de son mérite et de sa personne. La physionomie grave et importante et la respectable obésité du septième lui donnaient l'apparence d'un intendant de bonne maison. Enfin, le huitième et dernier convive, que par galanterie nous aurions dû nommer le premier, était la personne dont nous avons entendu Bourguignon et son interlocuteur parler sous le nom de mademoiselle. Chapitre 11. Mademoiselle. On ne saurait imaginer quelque chose de plus gracieux et de plus séduisant que le visage et la tournure de cette jeune fille. Mademoiselle, à laquelle il était impossible de supposer plus de 18 à 20 ans, avait un doux et ravissant visage, blanc et rose comme un pastel de la tour, et couronné de cheveux d'un châtain pâle, merveilleusement soyeux et épais. Ses yeux, d'un bleu sombre et profond, tantôt lançaient de vifs regards comme des flèches acérées, tantôt se voilaient d'un nuage de rêverie mélancolique. L'expression de ses yeux et de ses regards devait être irrésistible. La bouche, très petite et rouge comme la fleur du grenadier, laissait voir, en s'entr'ouvrant par un sourire, des dents mignonnes et régulières, aussi blanches et aussi nacrées que des perles. L'exquise distinction du visage de cette jolie personne s'accordait bien avec la petitesse aristocratique des mains et la cambrure espagnole d'un pied étroit et long. Quant à la taille, svelte et souple au-delà de toute expression, elle était de tout point, pour nous servir d'une expression alors de mode, celle d'une nymphe bocagère. L'enchanteresse que nous venons de décrire était vêtue d'une robe de taffetas changeant, d'un gris pâle à reflets mordorés, d'une simplicité et d'un goût parfait. Le militaire, le convive en livrée et le gentilhomme semblaient jeunes. Le moine, le commissaire, l'intendant et le bourgeois avaient dépassé la quarantaine, et les deux premiers paraissaient même de beaucoup plus âgés. Comment donc une jeune et belle fille, qui selon toute apparence était bien née et bien élevée, se trouvait-elle seule au milieu de 7 hommes d'âge et de conditions divers, riant avec eux, trinquant avec eux, buvant avec eux, sans gêne et sans embarras? Comment enfin cette réunion avait-elle lieu dans un appartement luxueux et autour d'une table servie avec les recherches les plus somptueuses et les plus raffinées, dans une vieille et sale maison de cette horrible rue du Gindre? Voilà ce que sans doute nous ne tarderons guère à savoir. Le huitième convive, au moment où il entra dans la salle du festin, fut accueilli par une joyeuse et bruyante clameur. « Bonjour, vicomte! Comment te portes-tu, vicomte? Vicomte, comme tu viens tard! « Je bois à ta santé, vicomte !» Voilà ce que crièrent à la fois toutes les bouches. « Bonsoir, mes très chers !»« Bonsoir, ma gentille émeraude !» répondit gaiement le nouveau venu. Il s'empara d'un siège resté vide à côté de la jolie fille qu'il venait de nommer émeraude et qu'il embrassa sans façon sur les deux joues. Puis il continua, après avoir rempli simultanément son assiette et son verre. « Je suis en retard, c'est vrai, mais soyez tranquille, je vous rattraperai. » Et effectivement, à la manière dont il mit tout aussitôt les morceaux doubles et dont il vida son verre sans relâche, il sembla vouloir non seulement rattraper, mais dépasser ses compagnons. Les convives regardèrent pendant un instant les exploits de ce robuste appétit, en silence et avec une admiration non équivoque. Puis, la conversation interrompue se renoua, devint générale, s'enchevêtra et forma un ensemble bruyant qu'entrecoupaient des éclats de voix et de fragments de chansons à boire. Le moine ne donnait point l'exemple de la sobriété, et la jeune fille elle-même tenait tête aux plus hardis buveurs et dépassait volontiers dans ses paroles les dernières limites de la retenue et de la décence. Le repas se prolongea jusqu'après de minuit, puis le vicomte se leva, alla s'adosser à la cheminée et dit « Et maintenant, mes très chers, occupons-nous des affaires sérieuses. » « Oui, oui !» répondirent unanimement les convives. « La journée a-t-elle été bonne ?» demanda le vicomte. « murmurèrent deux ou trois voix. « Voyons !» continua le personnage auquel la parole semblait dévolue. « Qu'avez-vous fait ?» Personne ne dit mot. « Procédons par ordre !» poursuivit le vicomte. « Je commence par notre charmante émeraude. »« Oh !» s'écria la jeune fille. « Ce n'est vraiment pas la peine de parler de moi !» J'ai perdu mon temps, ou à peu près. Enfin, si peu qu'il y ait, il y a cependant quelque chose, n'est-ce pas ? Voilà tout, dit Émeraude en tirant de sa poche un petit écrin en maroquin rouge qu'elle ouvrit. Cet écrin contenait un bracelet en or, enrichi de perles de peu de valeur. D'où vient cela ? Demanda le vicomte. De chez le petit joaillier de la rue du Bac. C'est un magasin sur lequel il ne faut plus compter. Depuis mes dernières visites, ce boutiquier de malheur est devenu effroyablement soupçonneux. Il ne vous perd pas de vue un seul instant, et ses yeux dévorent vos mains. » Le vicomte soupesa le bracelet pendant un instant et l'examina avec attention. « En effet, dit-il ensuite, c'est bien mesquin. Je ne donnerai pas 10 louis de ce colifichet. Demain, ma chère enfant, il faudra faire en sorte d'être plus heureuse. »« On tâchera, » répondit Émeraude. « À toi, jambe de serre !» reprit le vicomte en s'adressant au faux commissionnaire. « Moi, » fit ce dernier, « c'est encore pis. Je m'étais installé près du palais royal, attendant quelque aubaine. On vint me chercher d'une maison voisine pour porter une malle. Elle était assez lourde et j'en tirais un favorable augure. Où est-elle, cette malle ?»« Au magasin, parbleu !»« Eh bien ?»« Eh bien, elle ne contient que de vieux habits et du linge en mauvais état. » J'étais complètement volé. » Le vicomte se mit à rire et les autres convives l'imitèrent. « Je vois en effet, poursuivit-il, que la journée n'a pas été bonne pour vous autres. À ton tour, frère Boniface. » Le prétendu moine étala sur la table un rosaire à grains d'or, une bourse garnie de quelques monnaies, une montre et un médaillon entouré de petits diamants. « J'ai récolté cela chez des âmes pieuses, dit-il. Je sais que c'est mesquin. « Hélas, mes très chers frères, la dévotion s'en va. Presque partout, quand on me reçoit dans l'antichambre. Il faudra changer ma spécialité, laisser repousser mes cheveux, couper ma barbe et me faire mes créants. Le froc ne rapporte plus. » Un long et bruyant éclat de rire accueillit les paroles du faux capucin. « Bravo, Tournesol, bravo !» fit le vicomte au bout d'un instant. « De moine à mécréant, il n'y a que la main. Nous aviserons à te choisir une autre industrie. » Vous m'obligerez, répondit Tournesol. Depuis quelque temps, le froc ne m'attire que des humiliations et des déboires. J'ai hâte de le quitter. As-tu quelque chose en vue? Oui, vraiment. Quoi donc? Ma pogne est solide, mon coup d'œil juste et mon cœur bien placé. Vous en convenez, n'est-ce pas? Sans doute, mais à quoi diable veux-tu en venir? À ceci. Je souhaite me faire spadassin. » Triste métier, s'écria le vicomte avec une moue significative. Excellente industrie, au contraire, répliqua vivement Tournesol. On a je ne sais combien de cordes à son arc. Quand l'une d'elles vous fait défaut, l'autre est toujours à votre service. Explique-toi plus clairement, mon ami. Volontiers. D'abord, grâce à une mine belliqueuse, à de longues moustaches retroussées en crocs et à une rapière gigantesque, on est l'effroi des petits bourgeois et la coqueluche des petites bourgeoises. Par conséquent, rien n'est plus facile que de lever des contributions sur les maris par la peur et sur les femmes par l'amour. Ce n'est pas tout, on se montre assidu aux porcherons, et dans les promenades. On fréquente tous les endroits de plaisir. L'on cherche querelle aux quidam d'allure débonnaire et aux provinciaux de figure naïve. Braves gens à qui le moindre coup d'épée inspire une terreur salutaire, qui préfèrent une saignée à leur bourse à une saignée à leur individu, et qui s'allègent volontiers de quelques pistoles pour éviter un combat dont la seule pensée les fait frissonner de la tête aux pieds. Joignez à cela qu'on met sa Durandalle au service des jaloux peureux et de tous ceux qui veulent se venger d'un ennemi sans courir les chances d'un duel. Et vous verrez que de très notables profits peuvent et doivent résulter de cette honorable position de spadassin. N'est-ce point votre avis, vicomte ?
Peut-être as-tu raison, Tournesol, répondit le personnage ainsi interpellé.
Agis donc à ta guise, et jette le froc aux orties pour revêtir le harnais de guerre, puisque telle est ta fantaisie.
Merci, dit Tournesol en cambrant martialement sa haute taille, en relevant la tête d'une façon belliqueuse et en se posant le poing sur la hanche.
Dès demain, vous me verrez à l'œuvre, et je vous réponds que je ne serai point un membre inutile de notre association.
Le vicomte, après le colloque que nous venons de rapporter, continua l'espèce d'interrogatoire auquel les honnêtes gens que nous mettons en scène répondaient d'une façon si catégorique. Il questionna successivement le major au régiment de Royal Champagne, l'intendant de bonne maison et le domestique en livrée vert et or. Chacun d'eux apporta à la caisse commune le fruit de ses brigandages de la journée. Le bourgeois de mine modeste dut rendre compte à son tour de l'emploi de son temps.
« Moi, dit-il, je n'apporte rien. »«
Comment ? » s'écrièrent deux ou trois voix.
« Voilà qui va mal, monsieur Benoît, » murmura le vicomte.
« Mes chers collègues, répondit monsieur Benoît, vous me jugez bien vite, ce me semble, et vous me condamnez bien légèrement. Est-ce donc à dire que le chasseur ait mérité des reproches quand il rentre au logis les mains vides ? Mais après avoir trouvé les traces du gibier qu'il pourchassera et qu'il rapportera le lendemain ?
« Où tend ce préambule ?» demanda le vicomte.
« Vous le saurez dans un instant, et je crois que bien loin d'encourir vos reproches, j'aurai droit à quelques éloges. »«
Nous attendons, » murmurèrent les associés.
« M'y voici. » Le hasard, ce grand maître des choses de ce monde, avait conduit aujourd'hui mes pas du côté de la chapelle, et j'avais laissé faire le hasard, car il n'est pas rare de rencontrer de bonnes aubaines extramuroses. La chance, d'ailleurs, ne m'avait point souri, et je m'en revenais à Paris pédestrement et tout penaud. J'allais franchir la barrière Saint-Denis quand je fus arrêté par un grand encombrement de chariots, de coches et de carrosses. Une charrette, dont la roue s'était brisée, causait cet encombrement. La foule s'amassait, les cochers juraient et les chevaux piaffaient dans la boue. Comme je ne voulais point exposer mes bas chinés à recevoir des éclaboussures au milieu de cette bagarre, je me rangeai le long des maisons, le plus près du mur qu'il me fut possible, et j'attendis. Au bout de 5 minutes, on avait relevé la charrette et la file de voitures se remettait en mouvement. J'allais suivre la foule qui se dissipait peu à peu quand je vis venir à moi un cavalier bien monté qui s'était trouvé pris au milieu de la bagarre et auquel, sans doute, ma figure inspirait une confiance dont j'étais digne. Ce cavalier était un jeune homme de 16 à 18 ans au plus, entièrement vêtu en noir. La boue qui couvrait son cheval et qui soufflait les bords de son manteau indiquait qu'il venait de faire une longue marche. Il était suivi d'une façon de petit laquais, fort mal monté et vêtu d'une livrée de hasard. Le jeune cavalier s'approcha de moi ainsi que je viens de vous le dire. Il porta la main à son chapeau qu'entourait un large crêpe noir. Il le souleva à demi et il me dit « Me permettez-vous, monsieur, d'avoir l'honneur de vous adresser une question ?» Je le saluai à mon tour avec une parfaite courtoisie, je mis sur mes lèvres un sourire empreint de la plus bienveillante bonhomie, et je répliquai que j'étais entièrement à sa disposition et que je me ferais un véritable plaisir de répondre non seulement à une question, mais bien à 100, si je jugeais convenable de me les adresser.
Chapitre 12. Les filles de Monsieur Benoît. Monsieur Benoît continua son récit que tous les convives de la rue du Gindre écoutaient avec une religieuse attention. «
Je vis à merveille, reprit-il,
que le jeune cavalier était enchanté de l'affabilité de mes manières.
« Monsieur, me dit-il, êtes-vous de Paris ?»«
Oui, monsieur, lui répondis-je, bourgeois de Paris, né dans le quartier Saint-Denis, où nous faisons de père en fils, depuis 300 ans bientôt, le commerce des laines en gros et en détail. Nicolas Benoît, pour vous servir, s'il en était capable, à l'enseigne du Bélier d'Argent.
« Alors, monsieur, vous devez connaître merveilleusement bien la grande ville. »
« Je n'en ignore, monsieur, ni une ruelle, ni un cul-de-sac. Soyez donc assez bon, monsieur, pour me tirer de l'embarras dans lequel je me trouve. Faites-le-moi connaître, et je ferai de mon mieux pour vous satisfaire.
Je suis étranger, monsieur.
Je m'en doutais. Je viens à Paris pour la première fois. Je n'y ai aucune relation, et je vous prie de m'indiquer une hôtellerie modeste, mais sûre, où je n'ai rien à craindre pour ma petite fortune que je porte tout entière avec moi.
Ces dernières paroles résonnèrent à mes oreilles comme le clairon résonne à celle du cheval de bataille. Mes yeux se portèrent instinctivement sur une valise très gonflée que des courroies de cuir attachaient derrière la selle du jeune homme, et d'où s'échappait, à ce qu'il me sembla, un bruissement métallique à chacun des mouvements du cheval. Je devinais que Mercure, le dieu des gens habiles, m'envoyait une capture pour laquelle je n'aurais pas même eu la peine de tendre mes filets. Et je me hâtai de répondre.
« Rien ne m'est plus facile, monsieur, que de vous donner le renseignement que vous attendez de moi. Je connais une petite auberge tranquille et peu coûteuse, et dont le maître est sans contredit le plus honnête homme qui se puisse imaginer.
« Et où est située cette hôtellerie, s'il vous plaît ?»«
Rue de Paradis-Poissonnière, à l'enseigne de la Toison d'Or. »«
Je vous aurai, monsieur, une obligation de plus, si vous voulez bien m'apprendre quel chemin je dois suivre pour y arriver. »
Je vous renseignerai de grand cœur, mais il est certain que vous vous égareriez plus de 10 fois en route.
Comment donc faire?
Rien n'est plus simple. Je vais justement de ce côté, et s'il vous convient de ralentir un peu le pas de votre cheval, je vous conduirai moi-même.
Quoi, monsieur? Vous auriez la bonté?
C'est un plaisir pour moi, monsieur.
Dans ce cas, j'accepte votre offre obligeante, et je vous suis reconnaissant comme je le dois.
Nous nous mîmes en route et nous échangeâmes, chemin faisant, toutes sortes de banalités et de lieux communs sans aucun intérêt. Vous devinez facilement, mes chers associés, quel motif m'avait poussé à indiquer au jeune provincial l'hôtellerie de la Toison d'Or, préférablement à tout autre. Cette auberge est, sinon un véritable coupe-gorge, du moins une maison de renommée douteuse, et la conscience de l'hôte est des plus faciles et des plus accommodantes. Nous arrivâmes dans la cour.
« Vous voici au gîte, » dis-je à mon jeune homme.
« Permettez-moi de vous souhaiter bonne chance dans Paris et de vous quitter. »«
Me quitter ainsi ? » s'écria-t-il en sautant à bas de son cheval et en me prenant vivement la main.
« Vous ne le ferez pas sans m'avoir accordé la faveur de vider avec moi un flacon de vin d'Espagne. »
Je prétextais des affaires urgentes. J'affirmais que je n'étais point maître de mon temps. Enfin, je me défendis d'accepter. Le jeune homme insista chaleureusement. Je m'y attendais et je finis par céder. Un palefrenier s'apprêtait à emmener les chevaux à l'écurie.
« Attendez un instant !» lui dit mon compagnon en débouclant les courroies qui attachaient la valise à la selle.
Un autre domestique s'avança pour prendre cette valise. J'approchai ma bouche de l'oreille du jeune homme et je lui dis tout bas.
« Il y a de l'or là-dedans, n'est-ce pas ?»«
Oui, » répondit-il d'un air étonné.
« Alors, » continuai-je du même ton, « ne souffrez pas qu'on y touche. Sans doute, la maison est sûre. Mais il ne faut pas exposer personne à la tentation. Je vous aiderai à porter cette valise. »
Il me remercia du geste et il me fit signe qu'il acceptait mon offre. Je pris la valise par une de ses poignées et je fus étonné, ravi de sa pesanteur. Nous montâmes ainsi jusqu'à une chambre du premier étage, la seule qui se trouva vacante en cet instant. Mon compagnon me serra de nouveau la main, puis il demanda une bouteille de vin de Xérès et de verre. Cette bouteille et ces deux verres furent placés sur une petite table qui se trouvait au milieu de la chambre. Le jeune homme s'assit d'un côté de cette table. Je pris place en face de lui. Il remplit les verres jusqu'au bord de cet ambre liquide qu'on appelle du vin de Xérès. Ensuite, il tendit son gobelet vers moi. Je lui rendis cette politesse, nos gobelets s'entrechoquèrent, et il but après avoir dit «
À votre santé, monsieur Benoît !»
à votre prospérité et à la réussite de tous vos projets, répondis-je. Et j'ajoutai presque aussitôt, « Oserais-je vous demander, monsieur, à qui j'ai le plaisir de parler ?»«
Au chevalier Raoul de la Tremblée, » répondit le jeune homme. Je me levai de mon siège et je m'inclinai profondément en m'écriant d'un ton pénétré. « C'est bien de l'honneur pour un pauvre bourgeois de Paris, comme moi, que d'être admis à s'attabler en compagnie d'un noble gentilhomme comme monsieur le chevalier. » Et je prie monsieur le chevalier de croire à l'expression sincère de toute ma gratitude.
« Ne parlons pas de cela, » fit-il. « Asseyons-nous, mon cher monsieur Benoît, et buvons. »
J'obéis. Il remplit mon verre, et je portai de nouveau sa santé, mais cette fois en lui donnant son nom et son titre. « J'entre avec vous, mes chers associés, dans tous ces détails qui peuvent vous paraître mesquins et insignifiants, mais qui sont indispensables pour vous faire bien comprendre par quelle pente insensible, par quels moyens habiles et détournés, par quelle transition délicate je suis arrivé peu à peu à capter complètement la confiance et les sympathies de ma nouvelle connaissance.
« Que pensez-vous de ce Xérès ? » me demanda-t-il après avoir bu.
« Je le trouve parfait. »
« C'est là votre avis ? » ?»«
Oui, en conscience. N'est-ce pas aussi le vôtre, monsieur le chevalier ?»«
Ah, fit-il, j'en buvais de meilleur au château de mon père. » Et je vis une expression de vif regret passer sur le visage du jeune homme. Que regrettait-il ? Était-ce le château, le Xérès ou le père ? Je voulus sortir de cette incertitude et je dis « Monsieur, votre père a dû ne se séparer de vous qu'avec un bien amer et bien profond chagrin. Ne voyez-vous donc pas que je suis en deuil ? » murmura-t-il d'une voix sombre.
« Oh, mon Dieu ! » m'écriai-je. « Est-ce que vous auriez eu le malheur, l'affreux malheur ?»
Je m'interrompis. Il acheva ma phrase. « De perdre mon père, » dit-il. « Oui, monsieur, j'ai eu cet irréparable malheur. » Ma physionomie se mit en deuil à l'instant même et j'essuyai une larme qui ne coulait point.